C'est l'heure d'accueillir Lise, notre invité suivant. On le connaît aussi bien, il nous répond toujours gentiment oui à nos demandes et pour cause. On va retrouver Stéphane Vaniche.
Bonjour. Stéphane Vaniche, bonjour.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, parfaitement. On vous entend, merci. Chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours. Stéphane, une riposte israélienne impressionnante, 99% de ces près de 300 missiles et drones en tout genre qui ont été envoyés par l'Iran et ses proxys. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, Stéphane, est totalement uni par rapport à la riposte qui va maintenant devoir être celle d'Israël ?
Oui, je pense que là-dessus, il n'y a pas de trop de soucis à se faire, dans le sens où, aussi bien du côté, je dirais, centre-gauche, représenté par Gantz, et où la droite au gouvernement aujourd'hui, vont être d'accord pour avoir une riposte. Le vrai problème, c'est savoir laquelle, pour dans quel but, entre guillemets. Donc, si vous voulez, sur le fond, je pense qu'Israël est uni, là, à part quelques marginaux, Israël est uni parce qu'on est vraiment dans la représentation de l'ennemi absolu qu'est l'Iran, parce que l'Iran menace notre existence, fait que dire depuis 30 ans qu'ils veulent nous rayer de la carte au sens propre du terme. Donc, c'est évident que là-dessus, on n'aura pas de politique politicienne, entre guillemets. En revanche, quelle riposte que Israël peut se permettre ou a envie de faire, ça, c'est une autre histoire et à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué à régler.
Oui. Et c'est pas forcément qu'une histoire interne non plus, puisque les États-Unis demandent instamment à Israël de ne pas faire de très fortes ripostes.
Oui, là aussi, on a un Biden mou du genou, et c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, le leadership américain est un bon allié pour nous empêcher d'être des victimes, mais pas un allié pour être respecté entre guillemets dans la région. Donc, c'est évident qu'Israël devra riposter. Enfin, il y a deux façons de faire. Soit on attaque quelque chose de symbolique à l'intérieur de l'Iran, et ça fera un énorme déplaisir à Biden. Soit, tout simplement, on enclenche, et à mon avis, c'est peut-être plus efficient pour Israël, on enclenche la disparition du Hezbollah. Et là, je pense que les États-Unis seraient beaucoup plus d'accord, parce que l'Hezbollah a une capacité saturer le système d'antidéfense potentiel très dangereuse, dans le sens où si l'Iran nous réattaque à coups de missiles, si Hezbollah nous envoie 50 000 missiles en une soirée, c'est évident qu'on n'aura pas le même succès qu'aujourd'hui. Donc, le Hezbollah représente un danger extrêmement fort, en fait, par rapport à l'Iran, par rapport à une attaque iranienne. Et donc, je pense que c'est ce danger-là qu'il faudra éliminer à un moment donné, tôt ou tard. Et ça paraît évident aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. En revanche, au niveau symbolique, c'est bien sûr sur l'Iran qu'il faut taper. Pour l'instant, je suis pas un spécialiste militaire, donc je ne sais pas ce que l'on peut faire ou pas faire. Mais c'est évident que le rapport au nucléaire va jouer. Et donc, on va être obligé, à mon avis, d'agir tôt ou tard pour montrer, un, à nos alliés que nous sommes pas attentistes, et deux, pour montrer à l'Iran qu'on ne peut pas nous attaquer impunément.
Alors, Londres, Paris, Berlin, l'Union européenne et à l'instant même Bruxelles ont condamné ces attaques iraniennes contre Israël. Stéphane Vaniche, on sait que c'est de la diplomatie. On est un peu dans la même situation qu'après le 7 octobre où tout le monde semblait être à nos côtés et on sait depuis que ce soutien va s'éroder assez rapidement.
Oui, mais l'attaque iranienne, alors je vais dire de manière cynique, nous permet de retrouver un souffle nouveau. C'est-à-dire que, en effet, le soutien que nous avons eu de tout le monde aujourd'hui nous permet de retrouver une marge de manœuvre, notamment par rapport au Hezbollah, dont je parlais tout à l'heure, nous permet de retrouver une marge de manœuvre qu'on avait de moins en moins encore avant-hier. Et donc, du coup, c'est grâce à cette attaque, et là c'est malheureux à dire ça comme ça, mais grâce à cette attaque, ça nous permet de retrouver une capacité stratégique, une capacité offensive qu'on avait petit à petit perdu avec les atermoiements de Biden et les hésitations qui marquent quand même, comment dirais-je, la fin d'un certain leadership américain, sauf si Trump revient, on verra comment ça se passe. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, les démocrates américains n'arrivent pas à créer une dynamique stratégique, comment dirais-je, y compris pour la paix au Proche-Orient, et c'est très dangereux. En revanche, ces soutiens-là nous permettent, à mon avis, de réagir et de retrouver une capacité offensive légitime, entre guillemets, pour quelques semaines en tout cas, et ça pourrait nous suffire quand même par rapport au Hezbollah.
Alors justement, est-ce que ça veut dire que ça va être que dans les... Enfin, on va dire que pour l'instant, les seuls qui ont joint l'acte à la parole, c'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer plus de soutien sur le terrain de la part de pays comme la France ou de la part de l'Union européenne ?
Je ne pense pas, parce que d'abord, on n'en a pas besoin. Ce qui est intéressant dans ces chiffres des 300 missiles, enfin les 300 vecteurs qui nous envoyés sur, contre Israël, c'est que nos alliés américains, anglais et jordaniens, il faut pas oublier la Jordanie qui a joué un rôle important, et je, pour être franc, je n'y croyais pas vraiment, les Jordaniens ont agi malgré les menaces iraniennes, cette coalition a éliminé, on va dire, 30% des attaques iraniennes, et nous, on a fait les deux tiers. Ce qui montre qu'Israël a une capacité, notamment sur les missiles balistiques, a une capacité défensive extrêmement forte, et là, c'est quand même un message sur les autres pays arabes, pour ceux qui voudraient nous attaquer, entre guillemets, notamment l'Iran et l'Irak en premier, on a une capacité défensive très forte. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, ça a bien tenu, et c'est pas grâce aux États-Unis que nous avons pas eu de ou quasiment pas eu de dégâts. C'est grâce à nous, et ça, c'est important. En revanche, je ne pense pas que le reste de l'Europe risque quoi que ce soit pour nous par rapport à l'Iran. C'est beaucoup trop délicat pour eux, y compris en termes d'attentats, en termes de relations internationales. En revanche, ils peuvent nous laisser faire, et ce qui est déjà beaucoup en ce moment, parce que nous avons ça à l'effort et nous avons une capacité de faire, il ne faut pas l'oublier, et on n'a pas besoin ni de la France, ni de l'Union européenne pour pouvoir agir au Moyen-Orient, et heureusement.
C'est vrai qu'on n'a pas besoin, mais on aime quand même bien ne pas se sentir totalement isolé, Stéphane Benich, et c'était un peu le cas ces derniers temps.
Moi, je ne partage pas complètement cette idée d'isolement. D'abord, l'isolement, elle est très symbolique par rapport aux Palestiniens, par rapport à la martyrologie palestinienne, mais elle est pas, on n'est pas isolé au sens propre du terme, dans le sens où les relations internationales, les relations commerciales sont complètement restées intactes. Le vrai souci, c'est Biden, c'est le Michigan. Le vrai souci, ce sont les élections présidentielles, l'élection présidentielle américaine. Ce n'est pas les relations internationales israélo-occidentales, entre guillemets, même si on a une forte critique parce que les pays européens ont très peur des attentats, surtout la France avec les Jeux Olympiques qui arrivent. On n'a pas d'isolement. Et c'est quand le Times, je crois, ou Newsweek, je ne sais plus, crée l'isolement d'Israël, c'est faux. Et la preuve, c'est plutôt qu'il y a quelque chose de sérieux, pas juste l'amusement avec le Hamas, entre guillemets, mais quelque chose de sérieux qui concerne vraiment les relations internationales. Nos alliés ou nos amis sont là, entre guillemets, donc je ne partage pas cette idée d'isolement. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que la force symbolique de la victime palestinienne en Europe et en Occident est telle qu'en effet, ça fragilise ses relations, mais c'est très symbolique, ce n'est pas sur le fond.
Cette riposte dont tout le monde a peur, est-ce que ça veut dire, Stéphane Benich, que le monde ne se rend pas compte de la dangerosité actuelle de l'Iran, notamment de son programme nucléaire ?
Si, ils s'en rendent compte, mais ça manque de courage. On est un peu comme en logique dans les années 30 face à l'Allemagne. Il faut savoir que si en 33-34 on avait rattaqué l'Allemagne après le début de réarmement de la Ruhr par Hitler, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale. Là aujourd'hui, on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire qu'on a un pays, complètement sauvage, ensauvagé, entre guillemets, un peu comme l'Allemagne était sous les nazis, qui crée sa bombe atomique, et en même temps, les Occidentaux sont complètement, en effet, immobilisés par rapport à ça, tétanisés, ce qui est une erreur stratégique, pas que pour Israël, mais pour tout l'Occident. Après, on va voir ce qui va se passer dans le futur. Moi, je ne crois pas, pour être franc, moi, je crois que la bombe atomique iranienne va exister à cause de la lâcheté des Occidentaux et des États-Unis. On sera peut-être pas les premiers embêtés par cette bombe atomique, contrairement à ce qu'on pense, mais plutôt les pays arabes sunnites, parce que Israël a une capacité de réaction très forte. Nous avons aussi quelque chose qui ressemble à des bombes atomiques, même si c'est pas officiel. En revanche, ça va être très, très dangereux pour la péninsule arabique et ça va être donc très compliqué pour l'Occident. Il faudrait qu'ils réfléchissent un peu plus à ça. Mais pour l'instant, en effet, on se rend compte du danger, mais la réponse, le coût de la guerre potentielle contre l'Iran semble énorme pour les Occidentaux, alors que pour de vrai, c'est un château de cartes qui pourrait tomber très rapidement, l'Iran, parce que 80% de la population iranienne ne soutiennent pas le régime actuel. Donc, c'est très compliqué pour un pays qui n'est pas soutenu par sa population.
Vous citiez justement le reste des pays arabes. On a parlé de la Jordanie. On était effectivement un peu surpris de ce soutien aux côtés d'Israël. On n'a pas de réponse encore maintenant des Émirats arabes unis ou du Bahreïn ou du Maroc, de ces pays qui sont censés désormais être, si pas les amis, au moins les alliés d'Israël dans le monde arabe.
Oui, bah, en fait, ils ont pas soutenu l'Iran, c'est moi qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez, le système fonctionne. En fait, ils ne peuvent pas officiellement nous soutenir aussi facilement que cela. La Jordanie n'a pas soutenu Israël officiellement. Elle a empêché que son espace aérien soit, comment dire, empiété par les missiles iraniens, ce qui est, c'est une rhétorique, mais enfin, qui a sa valeur en termes diplomatiques. Non, ce qui est intéressant, au contraire, moi, je suis plutôt plus optimiste là-dessus, c'est que ça va forcer l'Arabie Saoudite à se rapprocher de nous, parce que le danger iranien est réel. Les 300 missiles lancés en Israël ont été détruits à 99,5%. S'il y a 300 missiles sur l'Arabie Saoudite, je peux vous dire qu'ils ne sont pas arrêtés à 99%, et ils le savent très bien. Là, c'est le système Arrow qui a l'air très, très efficace. Donc, si vous voulez, ça fragilise les pays arabes face à l'Iran, et donc, du coup, ça renforce automatiquement l'attrait d'Israël pour ces pays-là. Et donc, je pense que là aussi, l'attaque iranienne n'est pas une mauvaise chose pour nous par rapport à la diplomatie israélo-arabe, parce que ça montre notre capacité de défense et notre capacité de créer un parapluie antimissile pour ces pays-là, s'ils le demandent et s'il y a un accord.
Alors, c'est vrai que c'est un peu cynique de leur part, mais la victime actuelle, on va dire pour l'instant, c'est une fillette de 7 ans qui est originaire d'un village bédouin qui habite près d'Arad et qui a été grièvement blessée par cette attaque iranienne. Elle est en soins intensifs et sa vie est en danger. Ça va la foutre mal, si j'ose dire, Stéphane Vanisch, si la seule victime israélienne, c'est une fillette, déjà donc un enfant, et en plus originaire d'un village bédouin.
Vous savez, les Iraniens, c'est un système totalitaire, ils s'en fichent totalement. Ils se fichent totalement des Arabes, d'ailleurs, de manière générale, vu qu'ils sont chiites et pas sunnites. L'Iran a aussi envoyé quand même des missiles sur Jérusalem. Et puis Jérusalem Est, comme vous regardez les cartes des Azakot, là, des alarmes, il y a des villages arabes qui ont été concernés. Et donc, ça veut dire que, un peu comme le Hamas, qu'on soit juif, arabe, bédouin, etc., ne compte pas. Ce qui est important, c'est sur rapport à Israël et au sionisme, entre guillemets, on est vraiment dans une logique totalitaire où l'autre en tant que tel n'existe pas, c'est simplement l'objet de la représentation qui existe. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Iran n'a pas hésité, en effet, à envoyer des missiles sur les villages bédouins, à envoyer des missiles dans le Jérusalem Est et pas juste Ouest, alors qu'ils ont une précision, donc ils pouvaient bien choisir. Et donc, c'est aussi un choix d'impérialisme de l'Iran sur les Arabes, je dirais, de la région. C'est un système symbolique. Et en effet, si cette fillette, et j'espère pas pour elle, la peau meurt, elle sera un système symbolique, mais plutôt positif pour l'Iran, contrairement à ce qu'on pense, et pour montrer aux Iraniens qu'ils n'hésiteront pas à tuer d'autres musulmans s'il le faut par rapport à leur vision impérialiste. Et c'est pour ça que les pays arabes, au milieu des péninsules arabiques, craignent énormément l'Iran, et ils ont raison, parce qu'ils n'hésiteront pas. Le fait d'être entre musulmans n'est pas un souci. Il y a vraiment cette notion impériale de la Perse, entre guillemets, impériale de l'Iran et du schisme, qui fait que les sunnites sont vraiment fragilisés face à l'Iran.
Ma dernière question, Stéphane Vanisch. On a vu des manifestations de joie, notamment à Beyrouth et à Téhéran, par rapport à ces attaques iraniennes. On aurait pu penser, au contraire, que les opposants au régime allaient peut-être sortir dans la rue pour dénoncer ces attaques.
Ben non, parce qu'ils ont promis de se faire tuer, en fait. Pour être franc, ces manifestations de joie sont des manifestations commandées. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a un petit 1000 personnes à Téhéran, quelques centaines à Beyrouth. On n'est pas dans des manifestations de masse spontanées populaires. On est simplement dans des manifestations commandées par des gens payés, salariés du système iranien ou du système du Hezbollah. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas, en effet, de manifestations de joie de masse. On est loin de la guerre avant la guerre des six jours où il y a 1 million de personnes qui scandaient à mort les juifs au Caire. Là, il n'y a pas du tout ce genre de phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand phénomène de masse du Liban, c'est la peur que l'on attaque le Liban, le Hezbollah, et qu'on esquinte complètement le Liban. Et du coup, il y a une crainte énorme de la part des Libanais, de la part de ce que pourrait faire le Hezbollah. Et c'est aussi cette file d'attente, je ne sais pas si vous avez vu, la file d'attente devant les stations d'essence à Téhéran pour que les gens partent si on attaquait Téhéran. Donc la seule manifestation de masse, c'est plutôt de la crainte de notre réaction que plutôt d'un soutien au régime iranien. Et donc, ces trois drapeaux ennemis, enfin ces 10 drapeaux ennemis qu'on a pu voir dans la presse, bien avec un cadre très serré pour montrer qu'il y a du monde, et que de la propagande, il n'y a pas de soutien de la population arabe à l'attaque iranienne spécifique. Il y a juste, les ceux qui dépendent du système qui le font.
Merci beaucoup Stéphane Vanisch d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka, chercheur à l'Université de Tel Aviv et spécialiste de l'analyse du discours. Bonne journée à vous et à très vite.
À très vite, bonne journée également. Au revoir.